Dans les pas des géantes. Elles ont marqué l'histoire des sciences, parfois sans qu'on le sache, souvent sans que l'on s'en souvienne. Dans les pas des géantes dresse chaque quatrième mardi du mois sur Radio B le portrait de ces femmes de science remarquables et pourtant méconnues. Laissez-vous inspirer avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. L'homme préhistorique est aussi une femme. Tel est le titre du livre qui a été écrit par la préhistorienne Marilène Patoumatis et qui est sorti récemment en octobre 2020. Depuis plusieurs années, le rôle et la représentation de ces femmes dans la préhistoire est remise en question, notamment grâce au travail de préhistoriennes comme Claudine Cohen ou, comme on vient de le dire, Marilène Patoumatis, qui propose une relecture féministe de cette époque encore souvent fantasmée. Alors la femme préhistorique, au-delà de son rôle maternel, était-elle aussi chasseuse, artiste, voire même guerrière? Comment le rôle des femmes est-il perçu et interprété dans l'archéologie? Et surtout, est-ce que les stéréotypes de genre ont une influence sur les archéologues? Alors pour en parler aujourd'hui, j'accueille une nouvelle voix au micro de Radio B, c'est ma collègue Claire Tapona. Bonjour Claire.
Bonjour Camille.
Alors l'homme préhistorique a beaucoup été étudié, analysé à travers les squelettes, les outils ou encore les œuvres qu'on lui a attribuées. Mais finalement, on sait peu de choses sur la femme préhistorique.
Oui, on sait peu de choses parce que jusqu'à récemment, les archéologues se sont peu intéressés aux femmes et au rôle qu'elles occupaient réellement dans ces sociétés préhistoriques. La représentation des femmes était surtout établie sur la base de fictions, de préjugés et d'idées reçues.
Ouais, c'est vrai que lorsque l'on évoque la préhistoire, il y a une sorte d'imaginaire collectif, avec d'un côté les hommes préhistoriques, musclés, dominateurs, armés pour la guerre et la chasse aux bêtes féroces, et puis de l'autre, on a les femmes préhistoriques, plus craintives, qui attendent sagement le retour de leur héros à l'entrée de la grotte, entourés d'une incroyable marmaille. Alors ce sont des représentations très stéréotypées, mais qui ont perduré aussi bien dans la communauté scientifique que chez le grand public, à travers les musées, les documentaires, les manuels scolaires ou encore les œuvres de fiction. Il y a plusieurs exemples de ce point de vue-là. Claire, d'où viennent-elles ces représentations?
Alors pour bien comprendre d'où vient cet imaginaire collectif, il faut revenir aux origines de la science préhistorienne, qui naît dans les années 1870, avec la découverte et surtout l'analyse des premiers fossiles. Très vite, les archéologues attribuent des rôles bien précis à chaque sexe. Fabriquer des outils, aller à la chasse ou peindre des œuvres sont attribués aux hommes, alors que les tâches relatives à la cueillette ou à l'élevage des enfants sont attribuées aux femmes.
Mais de quelles preuves ces archéologues du 19e siècle disposaient-ils pour justifier une telle répartition des tâches?
Aucune, et c'est là le problème. Les archéologues n'ont à ce jour aucun vestige qui prouve une division genrée des activités dans les sociétés préhistoriques, que ce soit pour prouver l'existence d'une forme de patriarcat ou inversement, de matriarcat.
Alors comment est-ce qu'on explique du coup que ces archéologues aient véhiculé cet imaginaire avec une telle répartition des rôles entre les hommes et les femmes?
Pour comprendre, il faut se pencher sur la manière dont était faite l'archéologie au XIXe siècle. Déjà à ses débuts, l'archéologie était quasi exclusivement pratiquée par des hommes, des prêtres, des médecins ou encore des instituteurs. En plus, c'est une science qui possède peu de matière à étudier. Les fossiles sont rares, et on trouve peu d'artefacts préhistoriques, très peu d'objets. L'archéologie préhistorienne, c'est donc une science qui fait beaucoup appel à l'interprétation. Et cette interprétation, elle n'échappe pas aux influences des sociétés de l'époque. C'est ce qu'on appelle en archéologie l'effet de rétroprojection. On applique les schémas de pensée de notre époque sur celles que l'on étudie. Et c'est vrai en particulier pour la question des genres, où les archéologues du XIXe siècle ont supposé une répartition des tâches identique aux préjugés de l'époque victorienne.
On rappelle qu'au XIXe siècle, les femmes ont un statut relativement limité. Déjà, elles sont sous la tutelle de leur père, avant de passer sous celle de leur mari. Et puis la femme est avant tout destinée à rester au foyer pour s'occuper des enfants.
Tout à fait. Et les archéologues du XIXe siècle sont fortement influencés par cette idéologie victorienne. Ils transposent donc involontairement ces stéréotypes de genre sur leur découverte pour donner un statut à la femme préhistorique sans vraiment avoir de preuves scientifiques pour justifier ce statut.
Alors la représentation du rôle de cette femme préhistorique cantonnée à celui de l'élevage des enfants, éventuellement de la cueillette, elle va durer près d'un siècle. Et puis après, on arrive aux années 1970 et là, les choses commencent un petit peu à bouger.
Oui, à partir des années 70, il y a une montée des idées féministes qui font petit à petit évoluer les mentalités. L'archéologie s'ouvre aussi de plus en plus aux femmes et ce sont certaines archéologues féministes qui vont commencer à proposer une remise en question du statut des femmes préhistoriques.
J'imagine que leurs idées vont vite faire débat.
Oui, elles sont assez mal reçues par le reste de la communauté scientifique qui est encore bien imprégnée des stéréotypes hérités de l'époque victorienne. Mais on peut quand même relever que les années 70, c'est aussi la découverte de Lucie, la célèbre australopithèque datée de 3,2 millions d'années, est désignée comme grand-mère de l'humanité.
Radio B,
Radio B,
Radio B,
les bonnes ondes.
Alors il y a un autre élément qui va apporter un regard nouveau sur cette époque préhistorique, c'est le développement des études de genre ou gender studies outre-Atlantique.
Il faut revenir quelques instants sur ce que sont les études de genre. La notion de genre propose une distinction claire entre la notion de sexe biologique et celle de sexe social. Le genre correspond donc à un ensemble de représentations utilisées pour différencier hommes et femmes au-delà des critères physiques et physiologiques, qui correspondent, eux, au sexe biologique. Mais ces représentations varient dans le temps et l'espace, et chaque société construit ainsi sa propre hiérarchie des sexes et ses critères de différenciation. Du coup, comme les sociétés et les environnements changent, les rapports de genre aussi sont en perpétuelle évolution.
Ouais, ce qui est intéressant avec l'arrivée de ces études de genre dans l'archéologie, c'est qu'elles n'ont pas pour but d'inverser cette hiérarchie des sexes en mettant par exemple les femmes sur un piédestal ou en niant les différences qui existent entre hommes et femmes, quelle que soit l'époque d'ailleurs. Mais elles proposent de se détacher des normes de notre époque actuelle pour regarder si ces différences entre hommes et femmes existaient ou non à l'époque qu'on étudie, tout en admettant, comme vous le disiez, que ces normes vont évoluer dans le temps et selon les sociétés.
Oui, les études de genre permettent d'éviter d'analyser les faits du passé avec notre grille de lecture moderne. Ce n'est pas parce que la hiérarchie des sexes est comme ceci actuellement qu'elle l'a forcément été à l'époque.
Alors, avancer dans les sciences sociales d'un côté, avancer également du côté des technologies d'analyse. On pense bien sûr au développement de l'analyse de l'ADN, mais il y a aussi l'impact de l'imagerie médicale ou encore l'imagerie en trois dimensions.
Des avancées technologiques considérables qui vont être à disposition des archéologues. Jusque-là, pour déterminer le sexe d'un fossile, les archéologues regardaient surtout la morphologie des squelettes, notamment la différence de taille, de robustesse. Le problème, c'est que ces techniques sont peu fiables, parce que la différence de taille, en particulier chez les espèces dominidées les plus primitives, n'était pas aussi marquée que maintenant. Grâce aux nouvelles technologies, et notamment à l'analyse ADN ou à l'imagerie médicale, il va y avoir de nouvelles disciplines qui vont se développer au sein de l'archéologie. Par exemple, on peut parler de la paléopathologie, qui étudie notamment les micro-traumatismes qu'on peut observer sur les os.
Alors, grâce à cette paléopathologie, qu'est-ce que ces micro-traumatismes vont nous apprendre sur les femmes préhistoriques ?
Alors, les micro-traumatismes, ils permettent de détecter des gestes répétés, comme tailler la pierre ou semer des graines, par exemple. Et ça va permettre aux archéologues de prouver que les femmes préhistoriques chassaient elles aussi. Les archéologues ont observé les coudes de squelettes de femmes préhistoriques et analysé l'insertion des muscles sur le squelette, qui laissent des petites marques sur les os. C'est grâce à cela qu'ils ont pu déterminer qu'elles avaient un bras plus développé que l'autre, qui servait au lancer de sagaie. Certaines néandertaliennes étaient même aussi robustes que les champions de lancer de javelot actuels.
Alors, les femmes préhistoriques participaient à la chasse comme les hommes. Sur le plan artistique, on disait en début d'émission que les femmes préhistoriques avaient longtemps été écartées de cette fonction d'artiste. On pensait même qu'elles avaient tout simplement peur de rentrer dans les grottes. Est-ce que la science moderne a fait des découvertes de ce point de vue-là ?
Oui, notamment grâce aux technologies numériques et à l'utilisation des algorithmes qui ont servi à analyser les empreintes de mains qu'on a retrouvées sur les murs de certaines grottes. Pendant longtemps, les traces de mains plus petites ont été attribuées, encore une fois sans preuve, à des adolescents et surtout pas à des femmes. Mais en 2006, puis en 2013, il y a une équipe de chercheurs français, puis une équipe de chercheurs américains, qui ont utilisé l'indice de Manning pour déterminer le sexe des auteurs de ces empreintes de mains.
Alors l'indice de Manning, hein, c'est un ratio qui établit que les hommes ont un annulaire sensiblement plus long que l'index, alors que ces deux doigts sont à peu près de même longueur chez les femmes. On explique en fait cette différence de taille par l'influence des hormones au moment du développement de l'embryon.
Oui, c'est ça. Les archéologues ont donc analysé les empreintes de main dans plusieurs grottes en appliquant cet indice de Manning. Ils ont ainsi pu établir que dans certaines grottes, 75% des empreintes de main ont été réalisées par des femmes.
Ouais, alors ce qui démontre déjà que les femmes, contrairement à ce qu'on croyait, entraient aussi dans ces grottes pour pratiquer l'art. Du coup, c'est un peu plus difficile aujourd'hui d'affirmer que les autres œuvres, qui sont peut-être plus difficiles à identifier selon le sexe de son auteur, on pense notamment par exemple aux représentations d'animaux, n'aient pas été réalisées en partie par des femmes. Il y a un dernier point clair sur lequel les stéréotypes de genre ont eu et ont encore aujourd'hui beaucoup d'influence, c'est le rôle des femmes dans la guerre. Du coup, ces femmes préhistoriques, est-ce qu'elles étaient aussi guerrières ?
Alors, les archéologues utilisent principalement les objets qu'on retrouve à proximité du squelette, par exemple dans une tombe, pour faire des hypothèses sur le rôle social et politique joué par le défunt. Ils ont donc établi une grille d'analyse assez simple pour déterminer le sexe d'un squelette dans une tombe. Si la tombe présentait de nombreuses offrandes, il y avait des chances que ce soit une personne de pouvoir, donc un homme. Si la tombe présentait des armes, c'était forcément un homme. En revanche, si le squelette présentait des bijoux, alors là, c'était une femme. Le problème, c'est que, de temps en temps, certaines tombes présentaient des anomalies, si on peut dire. Par exemple, la tombe d'un guerrier, supposé homme, mais qui portait un fœtus au niveau de son abdomen.
Et c'est là justement où l'analyse de l'ADN va apporter davantage de réponses.
Oui, tout à fait. C'est ainsi que plusieurs squelettes ont changé de sexe au fur et à mesure des avancées scientifiques. On a plusieurs exemples. Par exemple, la Dame Rouge, découverte en 1823 au Pays de Galles, a été identifiée comme femme, non pas pour des raisons anatomiques, mais parce qu'elle portait un collier. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un homme du Paléolithique supérieur. L'homme de menton, lui, retrouvé à Grimaldi en France en 1872, était entouré de nombreuses offrandes. C'était donc quelqu'un d'estimé, et ça ne pouvait être qu'un mâle. L'ADN a depuis parlé et le squelette a été rebaptisé Dame du Cavillon.
Ouais, ce n'est pas les seuls exemples concernant la préhistoire. Cette préhistoire d'ailleurs qui ne fait pas exception en ce qui concerne les femmes guerrières. Il y a d'autres époques historiques où on a des exemples de femmes qui ont participé à la guerre. L'Antiquité, le Moyen-Âge par exemple, où on a découvert des tombes donc supposées de guerriers qui se sont finalement révélées être des tombes de guerrières grâce à l'analyse ADN de ces squelettes.
Tout à fait. Il y a notamment des exemples de guerrières vikings pour la période du Moyen-Âge qu'on avait pris pour des hommes et qui ont finalement bien été identifiées comme des femmes guerrières. Il y a d'autres exemples dans l'Antiquité, comme le peuple des Scythes, un peuple de cavaliers nomades d'Eurasie et pour lesquels on a identifié l'année dernière la tombe d'une jeune guerrière qui avait d'abord été identifiée comme celle d'un jeune homme.
Alors Claire, pour conclure, est-ce que l'on peut dire que les sociétés préhistoriques étaient plus égalitaires que nos sociétés modernes ?
Il est difficile de conclure car, encore une fois, l'archéologie manque de preuves. Mais l'hypothèse la plus réaliste est que ces sociétés étaient organisées non pas en fonction du genre, mais plutôt en fonction des compétences et des aptitudes naturelles de chacun. L'entretien du feu, par exemple, pouvait incomber à un membre âgé du clan parce qu'il était limité dans sa mobilité, alors que les plus jeunes membres du clan partaient à la chasse, sans distinction sexuelle, et que les femmes avec des enfants en bas âge partaient plutôt à la cueillette.
Ouais, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que cette archéologie moderne invite vraiment à repenser la façon dont nous représentons cette préhistoire, au-delà des clichés, et plus largement, comment nous imaginons le rôle des femmes au-delà des préjugés de notre époque. Merci Claire d'avoir participé à cette émission.
Merci Camille, à bientôt.
À bientôt, et nous on se retrouve le mardi 23 mars pour une nouvelle chronique. On parlera cette fois-ci du rôle joué par les femmes dans la grande histoire de la médecine. Retrouvez d'autres portraits de femmes scientifiques inspirantes et toutes les autres chroniques d'Altech sur le site radio-b.fr. À bientôt.